chronique de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Comment les politiques monétaires des grands États, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, agissent sur les conditions de l'économie? Quels sont leurs objectifs? Avec nous aujourd'hui, pour sa chronique, Jacques Delarosière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Jacques Delarosière, vous allez probablement nous parler donc aujourd'hui des politiques monétaires. Est-ce que vous pourriez nous présenter justement la politique monétaire de ces dernières années?
Oui, la politique monétaire, ça consiste pour une banque centrale à approvisionner le système financier avec suffisamment de liquidités en créant de la monnaie banque centrale pour que les institutions financières puissent être liquides et pouvoir financer l'économie dans des conditions convenables. Plus la politique monétaire est lâche, plus les taux d'intérêt sont bas, plus l'économie est stimulée. En revanche, plus les banquiers centraux veulent lutter contre la surchauffe, veulent lutter contre une inflation trop importante, plus ils resserrent la politique monétaire, c'est-à-dire qu'ils réduisent l'accès à la banque centrale pour les établissements financiers qui, à ce moment-là, sont obligés d'être plus restrictifs dans leur politique de crédit. En gros, c'est ça. Alors, la politique monétaire est en très grande partie influencée par les États-Unis, qui sont, comme vous le savez, l'économie financière la plus importante du monde. Et il se trouve que depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, voire plus, la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale des États-Unis, a pratiqué une politique monétaire qui avait tendance à être plutôt libérale, plutôt accommodante. Et ça a d'ailleurs été une des causes profondes de la crise financière de 2007-2008. Pourquoi dis-je cela? Parce que quand une banque centrale, et ça a été le cas aux États-Unis, crée beaucoup de liquidités et qu'elle maintient des taux d'intérêt faibles, elle provoque une facilité dans l'octroi de crédit. Elle provoque aussi beaucoup de liquidités. Ces liquidités peuvent se porter sur des actifs divers, des actifs immobiliers par exemple, ça a été le cas aux États-Unis, ou des actifs boursiers, et on peut avoir des phénomènes de surchauffe, de hausse exagérée des prix qui sont nourris en quelque sorte par l'abondance de la liquidité. Et c'est un des facteurs, à mon avis, majeur, qui explique la gravité de la crise de 2007-2008. En effet, on avait beaucoup de liquidités à l'époque. Le crédit était très ample. Les banques commerciales en distribuaient beaucoup. Les emprunteurs étaient très heureux parce que les taux étaient faibles, ils pouvaient acheter des maisons, ils pouvaient acheter des actions, ils pouvaient entreprendre de nouvelles activités, et il y a eu une sorte de surchauffe. Il faut bien comprendre que les taux d'intérêt, en termes réels, c'est-à-dire défalqués de l'inflation régnante, étaient très proches de zéro. Pendant quelques années, ils ont même été négatifs. Donc, l'argent ne coûtait rien. Et quand l'argent ne coûte rien ou coûte très peu, il y a une tentation à en emprunter exagérément et à l'investir dans des activités qui peuvent être dangereuses ou risquées. Mais il faut bien comprendre que lorsque la crise a éclaté en 2007 et en 2008, il s'est passé quelque chose de très fondamental. Et ce quelque chose de très fondamental explique pourquoi on a redonné un coup de facilité monétaire après la crise de 2007. Ce quelque chose de fondamental, c'est que les marchés, en 2007, ont perdu confiance. Les banques qui avaient l'habitude d'avoir beaucoup de liquidités, de pouvoir emprunter facilement sur les marchés courts, sur les marchés interbancaires, tout d'un coup, lorsque la crise des subprimes, c'est-à-dire de ces crédits de médiocre qualité ou de mauvaise qualité immobilière aux États-Unis a éclaté, les marchés se sont resserrés. les gens n'ont plus voulu assurer la liquidité du système financier. Et à ce moment-là, on a été très près d'une crise de système totale, c'est-à-dire d'une crise où tous les établissements financiers auraient été incapables de se refinancer. Et à ce moment-là, les banques centrales ont agi avec beaucoup de détermination pour assurer le refinancement de l'ensemble du système financier. Et donc, ils ont pratiqué une politique de facilité monétaire. On a appelé ça le quantitative easing, c'est-à-dire la facilité de la création quantitative de monnaie, qui a permis sans doute d'éviter au monde une très profonde récession et peut-être une catastrophe financière. Alors voilà, si vous voulez, dans quelle ambiance on était en 2007-2008.
Et ces dernières années, donc, on est rentré dans une nouvelle phase, une nouvelle crise. Alors comment ces politiques monétaires ont-elles évolué ?
Oui, c'est-à-dire que depuis...
Elles avaient fait quelque chose de positif, visiblement. Est-ce qu'il y a un côté positif à la politique monétaire ?
Oui, il y a un côté positif. Je viens de vous dire que la gravité de la crise en 2006, où tous les marchés se sont asséchés parce qu'ils ont perdu confiance dans la qualité des instruments financiers qu'on leur soumettait, la gravité de cette crise était telle qu'il fallait que les banques centrales inondent en quelque sorte le marché pour permettre au refinancement des institutions financières de se faire. Alors, ce qui est de bien dans cette politique, c'est qu'elle a évité le désastre. Mais peut-être que nous pouvons nous poser la question de savoir si on peut continuer indéfiniment à pratiquer une politique de ce genre. Alors, ce qui est clair, c'est que si on n'avait pas pratiqué une politique de facilité monétaire à partir de 2007-2008, on aurait sans doute eu un désastre non seulement financier, mais économique. Donc je crois qu'on a bien fait de financer une activité bancaire et financière qui était indispensable à la poursuite de la marche de l'économie. Et en effet, on a permis d'éviter ces désastres. Il faut bien voir que le bilan des banques centrales, qui en quelque sorte illustre ce que je viens de dire, a considérablement augmenté depuis ces quelques années. On peut considérer que les bilans des grandes banques centrales dont nous avons parlé au début de l'entretien ont été multipliés par 3. Et donc, les banques centrales ont en effet acheté au secteur économique et financier et aux États des actifs contre lesquels ils leur remettaient de la monnaie. Et l'acquisition de tous ces titres contre lesquels on créait de la monnaie se trouve dans les bilans des banques centrales, et ces bilans ont maintenant pris des proportions considérables. Ils représentent une partie très importante des PIB des États, et c'est donc une politique monétaire ultra active, activiste, devrais-je dire, qui a été pratiquée dans les dernières années qui ont suivi la crise de 2007.
Et est-ce qu'on peut continuer indéfiniment à faire fonctionner ce qu'on pourrait familièrement appeler la planche à billets, cette abondance de monnaie là, dont vous nous parliez, disponible pour monter des crédits ?
Alors, vous posez la bonne question à laquelle je souhaite en effet répondre. Je pense que c'était indispensable de créer de la monnaie pour éviter l'assèchement de l'ensemble du système financier. Mais je pense que nous avons atteint maintenant des étiages de création monétaire qui commencent à poser des problèmes. Alors je vais vous énoncer quelques-uns des problèmes qui sont issus de cette création monétaire suractive dont je viens de parler. Le premier effet, c'est que les taux d'intérêt sont maintenus très bas. Quand vous créez beaucoup de monnaie, l'équation quantitativiste montre que les taux d'intérêt, c'est-à-dire le prix de cette monnaie, s'abaisse. Et quand les taux d'intérêt sont très bas, c'est un phénomène qu'on a rencontré au début des années 2000, avant la crise, il y a une tentation de se porter vers des actifs un peu plus rémunérateurs que les obligations d'État, par exemple, qui portent des taux d'intérêt extrêmement faibles. Et quand les opérateurs économiques sont tentés, du fait de très bas taux d'intérêt ambiants, d'aller sur des actifs plus rémunérateurs, mais aussi plus risqués, il y a un danger. Et le danger, c'est qu'un certain nombre d'institutions, d'acteurs économiques, prennent trop de risques sur des activités qui deviennent ou peuvent devenir spéculatives au mauvais sens du terme. Donc ça, c'est un premier risque. Et nous voyons aujourd'hui, dans un certain nombre d'éléments de la vie financière, du secteur financier, nous voyons des phénomènes de surchauffe, de prise probablement exagérée de risques. Il est en effet assez courant maintenant de constater que des signatures de faible qualité peuvent maintenant émettre des titres ouverts destinés à l'épargne publique dont la rémunération est faible, voire très faible. Et ça, c'est un signe de surchauffe. Si on se satisfait de rémunérations finalement assez décevantes, c'est qu'il y a une abondance de demandes de rémunération qui ne trouve pas son chemin et qui tente à faire baisser aussi les rendements de titres ou d'instruments qui ne sont peut-être pas d'une très bonne qualité. Donc c'est un peu préfigurateur d'une surchauffe. Le deuxième élément qui peut être dangereux, c'est que si vous avez une très grande abondance de liquidités et des taux d'intérêt très faibles, et que si par ailleurs la courbe des taux d'intérêt est très plate, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que les échéances courtes ne sont pas beaucoup moins chères que les échéances longues, normalement la courbe devrait être plus pentue, cela veut dire que les investisseurs qui investissent dans le long terme sont finalement très peu rémunérés. Or, vous avez...
Donc découragés.
Oui, et vous avez des secteurs entiers de l'industrie financière, par exemple les fonds de pension ou les compagnies d'assurance, qui ont des portefeuilles longs parce qu'ils ont des échéances longues du point de vue de ce qu'ils doivent à leurs clients, à leurs pensionnés, à leurs retraités. Et s'ils ne peuvent pas mettre en face de ces échéances longues des actifs qui sont suffisamment rémunérateurs, ils vont être obligés de baisser la rémunération de leurs retraités. Or, quelquefois, ces entreprises d'assurance ou de fonds de pension ont déjà, en quelque sorte, garanti des taux de rémunération, des taux d'intérêt pour les gens qui ont souscrit des contrats chez eux. Et ces taux sont difficiles à préserver, étant donné ce que je viens de dire du caractère très, très modeste des taux d'intérêt sur le long terme de la courbe. C'est un deuxième danger. Un troisième danger, c'est que comme il y a beaucoup d'argent prêt à circuler, vous pouvez avoir des phénomènes d'arbitrage qui font que vous avez des opérateurs qui vont se mettre sur des titres financiers qui sont un peu plus rémunérateurs, par exemple des titres d'État de pays émergents qui ont des problèmes d'inflation, qui sont obligés d'avoir des taux d'intérêt plus élevés que ce n'est le cas dans les grands pays dont nous avons parlé. Et à ce moment-là, vous avez une sorte de détournement de la liquidité vers certains pays, comme par exemple le Brésil ou la Chine. Et ces mouvements de capitaux, qui sont des mouvements à très court terme, c'est ce qu'on appelle le hot money, l'argent chaud, qui peut entrer mais aussi repartir à tout moment, ils tendent à être déstabilisateurs de la politique monétaire locale. Si vous avez en effet un pays qui est récepteur de ces mouvements de capitaux, qui peuvent être massifs, cette arrivée de capitaux va avoir tendance à faire monter le taux de change du pays en question, c'est-à-dire à détériorer la compétitivité du pays, ou bien elle peut avoir tendance, si le pays achète systématiquement les capitaux qui entrent pour maintenir son taux de change, elle peut avoir pour effet d'inonder le pays des conséquences, en quelque sorte, de cette entrée de capitaux, c'est-à-dire de faire de la création monétaire excessive, et donc de favoriser l'inflation déjà naissante. Donc vous voyez que c'est, sur le plan du fonctionnement du système international, c'est pas tout à fait évident d'avoir deux ou trois grands pays dans le monde qui font une politique monétaire très, très accommodante, parce que vous pouvez avoir des effets secondaires, des pertes en ligne, si vous voulez, qui peuvent perturber un certain nombre de pays qui vont recevoir ces excès de capitaux. Et puis enfin, on peut dire que quand vous avez des taux d'intérêt très faibles, c'est un peu euphorisant pour ceux qui empruntent. Et certes, les États sont satisfaits de pouvoir emprunter à bas taux, mais dans certains cas, ça peut les inciter à reculer un peu les mesures les plus rigoureuses qu'ils devraient prendre sur le plan notamment structurel pour redresser leur compte budgétaire. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de difficultés qui peuvent, je ne dis pas qu'elles sont aujourd'hui très présentes, mais je dis qu'elles peuvent potentiellement déséquilibrer le système. Et donc, il faut regarder ça avec attention. Cela dit, quand vous avez pratiqué une politique de facilité monétaire très abondante, le retrait hors de cette politique, c'est-à-dire la remise à niveau, je dirais, plus normal de la politique monétaire, devient un exercice d'autant plus difficile qu'il a été retardé. Parce que si vous avez de grandes bulles qui se sont établies à la faveur de la continuation de cette politique sur des marchés comme par exemple les marchés obligataires, le jour où les marchés voient que les banques centrales ne vont pas être les grandes acheteuses de ces titres, qu'elles vont commencer graduellement à se retirer, vous pouvez avoir, compte tenu de la manière dont les marchés fonctionnent aujourd'hui et de l'immensité des masses en jeu, vous pouvez avoir des réactions très brutales. Et donc, il va falloir que...
Ça peut être interprété comme un mauvais signe,
signal. Ben, vous avez bien vu, il y a quelques jours, on a commencé à dire peut-être que la Fed va commencer à se... modifier sa politique monétaire très accommodante, et il a suffi que l'on dise ça pour que les marchés soient perturbés. Et donc, on marche un peu sur de la glace. Il faut faire très attention à la manière dont ces politiques de sortie, ce qu'on appelle les « exit policies », se mettent en place. Et il est évident que plus on a laissé la planche à billets, comme vous l'avez justement dit, s'exercer, plus le fait de reprendre un peu sous contrôle ces masses monétaires devient difficile. Alors voilà un petit peu les problèmes qui se posent aujourd'hui. Je me résume. Un, il a été bon que les banques centrales prennent ces décisions au lendemain de la crise, mais elles ont peut-être péché par excès. Et maintenant, elles sont dans une situation assez difficile pour reprendre la main.
Et est-ce possible ?
Oui, c'est possible. Tout est possible, mais c'est un peu plus aventureux. Voilà, merci beaucoup.
Merci Jacques Delarosière. Et à bientôt, chers auditeurs, pour une prochaine chronique de M. Jacques Delarosière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et ancien gouverneur de la Banque de France.